Et si je baignais avec du jus de pépins de melon ? C'est l'idée folle qu'a eue Jean-Jacques Prévost, chef étoilé à Cavaillon, un peu aidé par sa fille Sandra Rose, vous verrez. Jean-Jacques est un artiste de la cuisine d'abord où il excelle avec beaucoup de talent et d'audace. Il est connu et reconnu pour son amour du melon, qu'il décline dans son menu avec amour en été, et notamment son célèbre homard cocotte cuit dans un melon confit en four, un pur régal. Mais il n'y a pas que dans l'assiette qu'il excelle, il écrit, il sculpte et il peint avec toujours le melon au centre de ses arts. Il nous parle de son parcours, de son courant artistique, le mélonisme, de sa volonté de se renouveler sans cesse, de sa sensibilité d'artiste, sensuelle et pleine d'émotions. Bonne écoute!
Je suis Jean-Jacques Prévost, je suis restaurateur et cuisinier depuis toujours. En fait, j'ai commencé à cuisiner très jeune et j'ai 65 ans et je me fais plaisir depuis toujours, autour de ce métier enrichissant et innovant. Alors, c'est vrai que ce métier de cuisinier mène à l'art, et plus ou moins, nous sommes tous des cuisiniers, des artistes. Mais moi, je trouve que si j'étais dans la vigne, je serais aussi un artiste. Pour commencer, j'étais amoureux de la fille d'un boulanger, dans mon petit village de Théoule-sur-Mer. Mais vraiment amoureux. Et j'étais amoureux aussi de la fille du poissonnier. Très amusant. Rien à voir. Une était complètement dans mon esprit, un petit peu espiègle, un peu foufou, joueur. Et l'autre était rigoureuse, rigide, voilà, qui ressemble à ma mère d'ailleurs. Donc, une ressemble à ma mère et l'autre me ressemblait. Et j'étais amoureux de ces deux filles, mais j'avais quoi, 10-12 ans. Mais je crois qu'avant tout, si je suis cuisinier, c'est parce que je suis gourmand quand même. Hein. Faut pas l'oublier. La cuisine, pour moi, était un plaisir intense. Chaque fois que je goûte quelque chose, chaque fois que je sens quelque chose, j'imagine et je suis dans le plaisir. Et je crois que c'est les papilles qui sont là, posées sur ma langue, qui sont bien présentes et qui m'apportent beaucoup de bonheur. Mais un point, on ne peut même pas imaginer. En réalité, j'aurais voulu être peintre et sculpteur. En fait, c'était ça ma passion, c'était la peinture et la sculpture. La cuisine, c'était un hobby pour moi. Je pense, quand on a 10-12 ans, on ne le sait pas, mais je pense que je voulais être sculpteur et peintre. J'étais déjà remarqué à l'époque, vraiment, dans mon école, déjà tout jeune. Et après, quand j'ai été en sixième, on m'a remarqué comme peintre. Et mes parents ne m'ont pas laissé choisir cette voie, parce qu'à l'époque, j'avais pas le temps de s'occuper de ça. Et puis, peut-être qu'il n'y avait pas les écoles là où j'étais. Alors, je n'ai pas fait d'école de cuisine, du tout. Parce que là où j'étais à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, que j'ai quitté Théoule-sur-Mer pour arriver dans le Nord-Pas-de-Calais, donc un autre pays, notre ambiance, notre chaleur de vie. Et j'ai rencontré un restaurateur extraordinaire, Jean de Troyes, avec un chef qui s'appelle Émile Annick, et qui avait, tous les deux, ils avaient une étoile au Michelin. Et j'ai trouvé mon plaisir culinaire à travers ce restaurant d'une étoile, voilà, d'une étoile. Et c'était vraiment un grand moment pour moi, même si c'était difficile, parce que c'était à l'époque encore très difficile. J'ai trouvé ma vocation, et puis voilà, j'ai fait mon chemin avec, voilà, tout simplement. Ça ne m'a pas empêché de reprendre mes envies de peindre et de sculpter. Ça ne m'a pas empêché, et aujourd'hui je suis peintre et cuisinier. Les deux. Voilà, je m'amuse beaucoup à dire que je suis peintre et cuisinier. Être artiste, c'est quoi l'artiste? C'est être capable de faire quelque chose qui émeut, qui donne de l'émotion. Mais ça peut être de l'émotion culinairement. C'est-à-dire, on va boire un verre de vin et on va dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon ça. J'ai envie de vigneron qui a préparé ce vin. Et c'est là qu'on va chercher à comprendre comment il a fait. Et moi, j'ai dit ça, c'est un artiste. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que tout le monde peut être artiste. Mais j'ai bien dit tout le monde. Et si on a compris l'enfant qui vient de naître, si on a regardé ses yeux et si on est curieux avec lui, on va le diriger là-dessus. Et c'est très très important parce que l'enfant, c'est nous. Et si on nous dirige bien, très tôt, on risque de faire de belles choses. La première fois que j'ai mangé du melon, c'est sur le marché. Il y a un monsieur qui coupait le melon et qui le coupait un peu n'importe comment. Et moi, je le regarde dessus le melon et je me rends compte. Je compte, il a 10 tranches de melon. J'ai dit, pourquoi le gars ne coupe pas à travers les tranches? Ça serait plus joli, plus élégant. Et déjà, je ne pensais pas être monsieur melon un jour dans ma vie. Mais j'avais déjà fait l'analyse de la tranche de melon. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait 10 tranches dans un melon. Entre 9 et 11. Et quand on a 10 tranches, on dit que c'est le plus beau melon. C'est vrai qu'il est bien équilibré, il est joli à la vue, il est facile à peindre. Donc j'ai goûté la première tranche de melon là, qui était très sucrée, très fruitée. C'était du melon de Cavaillon. J'ai dit, ah, quel bonheur, on est déjà en été là. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici en Provence, qu'est-ce qu'on est bien. Et ça, c'était ma première réaction. En fait, j'ai découvert Cavaillon en 78. Et donc, j'avais 23 ans. Et j'ai rencontré ma femme. Elle avait 30 ans, elle était un peu plus âgée que moi. Et j'ai rencontré ma femme à Cavaillon et je n'ai pu quitter Cavaillon en fait. C'était un coup de foudre, voilà, j'étais très content, une très jolie fille, gentille, avec un bel accent. Et j'étais très sensible à la région, à la beauté de la femme, au melon. Enfin, j'étais conquis par quelque chose. Et en fait, l'histoire du melon, c'est... Ça commence par une gourmandise, une tranche de melon. Après une tranche de vie avec l'amour, un mariage, une création de restaurant, tout. Voilà, on démarre la vie à 23 ans et la vie continue. Et si le melon est arrivé après dans ma cuisine, là, il y a vraiment des choses intéressantes. On pourrait dire un melon, ça ressemble à quoi? C'est un légume qui est avant tout un fruit. Mais un légume. Au départ, c'était un légume et on en a fait un fruit. On l'a rendu sucré. Mais c'est toujours la famille des cucurbitacées. Le melon, c'est quoi? Le melon, c'est une mappemonde. C'est comme une planète avec une écorce terrestre, comme le melon, avec un cœur, le magma de la Terre, donc le feu qui ressort à travers un volcan. Et là, on a le feu du melon, c'est-à-dire le sucre du melon qui ressort par le pécou, autour de la crevasse et à l'extrémité du pécou. Donc, on a le même esprit. Mais ce n'est pas tout. Le melon, c'est aussi le sein de la femme. Et le sein de la femme, il y a quoi? Il y a un mamelon, et auquel il y a du lait. Donc, on est sur trois matrices, on est sur trois esprits qui me correspondent tout à fait. Parce que ça ressemble au sein de ma mère, que je n'ai jamais pris. Et le melon, c'est quoi? C'est jouissif, c'est gourmand. Quand on va chercher un melon dans le champ, on va prendre le melon, on va le soupeser et on va le caresser. Et ce n'est pas rien de caresser un melon, en fait, c'est sensuel. On va le prendre dans ses mains et on va le sentir. Déjà, il y a l'odeur. Et l'odeur du melon, ce n'est pas rien. L'odeur du melon, c'est une odeur florale, de fruits. On sent un peu l'abricot, on sent le fruit exotique, on sent la terre, on sent la feuille, donc on sent le vert, la chlorophylle. Il y a beaucoup de subtilité dans le melon. Et donc, tout ça reste dans la sensibilité. On rejoint le sein, le melon et la planète. Trois matrices, trois choses.
Oh, c'est un fruit qui est merveilleux.
Il faut savoir que dans les années 70-80, le melon, la notoriété du melon disparaissait de la ville de Cavaillon. Il faut dire qu'il y a eu le marché commun qui est arrivé en Europe. Donc la Grèce, le Portugal, l'Espagne étaient devenus des concurrents directs à la France, et donc à Cavaillon, évidemment. Et le sud-ouest, en France, avait aussi pris des marchés très importants. Donc on ne devenait plus leader, on devenait toujours le meilleur melon, mais pas en tonnage, qu'importe, ça c'était pas très important. Mais ce qui était très important, c'est ce que j'ai analysé avec les années, c'est que si Cavaillon était très connu au fin 19e et début 20e siècle, c'est que les paysans étaient pauvres au départ et sont devenus très riches. Et la richesse apporte quoi? Apporte donc des moyens pour envoyer les enfants faire des études. Et bien sûr, tous ces enfants, au bout de deux générations, sont devenus médecins, avocats, ils sont partis un petit peu partout en France, à l'étranger. Ils ont quitté un petit peu le territoire agricole de leur pays. Et donc, on s'est retrouvé avec, avec un manque de main-d'œuvre. Voilà. Et des parents qui sont devenus vieux, qui ont laissé la place à d'autres. Ça n'a pas suivi. En fait, les grandes familles cavaillonnaises ont disparu plus ou moins. Donc, Cavaillon a perdu de cette fièvre agricole. Et on a perdu des marchés énormes. Je ne savais pas tout ça quand je suis arrivé. J'avais 23 ans, je ne savais pas tout ça. Je l'ai appris avec le temps. Et quand j'ai acheté ce petit local là où je suis actuellement, ce que j'ai appris par la suite, j'ai appris quand le propriétaire m'a donné l'acte notarié que ce bâtiment avait été construit en 1866. C'était la première maison de Cavaillon, la première expédition de fruits et légumes, le premier comptoir de melonniers de Cavaillon. Sans le savoir, j'avais acheté la première maison de Cavaillon. Et ce n'est pas un hasard, c'était à 800 mètres du chemin de fer. Donc, c'est juste derrière. Et donc, bien placé à la sortie du pont de la Durance, où on allait chercher aussi le melon dans la Croix, dans les Bouches-du-Rhône, donc d'Orgon, de Plan d'Orgon, des Sénas, ça revenait ici. Et ici, les charretons arrivaient. Rentraient, il y avait deux grandes portes ici immenses, rentraient leurs marchandises et il y avait des piles en béton qui étaient derrière. On lavait le melon, on le conditionnait, et le chemin de fer qui était juste derrière et qui avait été construit en 1854. Donc il n'y a pas de hasard, tout est lié au chemin de fer à Cavaillon. Et cette première maison, j'ai cru comprendre que Alexandre Dumas, qui aimait beaucoup le melon, qui était un fervent de melon, d'ailleurs il avait légué sa bibliothèque à la ville de Cavaillon en échange d'une rente viagère de 12 melons par an, jusqu'à la fin de sa vie, ce qui a été fait, François Tourelle, qui était le maire de la ville de Cavaillon, lui a envoyé chaque année une banaste de melons. Et j'ai entendu dire que Alexandre Dumas se baladait chez les expéditeurs, un peu partout. Il était passé ici dans cette maison, à la fin de son règne, parce qu'il est mort quelques années après. Il est passé ici et il a dû peut-être dialoguer avec les propriétaires de ce lieu. À l'époque, il y avait Pierre Bonte, qui était journaliste et chroniqueur à TF1 dans les années 80, disait et avait écrit dans son bouquin « Ne cherchez plus du melon de Cavaillon, il n'y en a plus. Du bon melon de Cavaillon, il n'y en a plus. » J'étais un tout neuf dans le secteur, j'étais tout neuf et j'étais outré. Et je lui avais dit. Et en fait, moi, je n'ai pas fait attention que Cavaillon perdait les marchés avec son melon. Moi, j'ai cru en ma cuisine. Et je me suis dit, si je ne fais pas quelque chose avec le melon Cavaillon, étant la spécialité de la ville, je vais me faire bouffer par tous ces chefs qui vont arriver de Paris, qui ont des capitaux énormes. Et moi, j'ai besoin de survivre, j'ai du personnel, je suis parti avec des crédits, il faut que je bosse. Et donc, un jour, je dis à ma femme, qu'est-ce que tu en penses? Créer des recettes autour du melon. Tu ne peux pas faire venir un Allemand, un Suisse, un Autrichien, un Australien à Cavaillon si tu ne montres pas le melon d'une autre façon. Il faut que tu le montres avec un autre esprit. Tu dois étonner les gens. Tu dois montrer que tu es un cuisinier et que tu as autre chose à montrer. Et à partir de là, j'ai été culotté. J'étais un jeune, je n'étais pas considéré. Et un jour, j'ai dit, je vais vous faire la cuisine au melon. C'est quoi la cuisine au melon? J'ai cuit du melon avec du poisson. Comment ça avec du poisson? Oui, je vais associer l'iode avec le melon. Mais c'est pas possible. Si, si. Et j'ai été voir tous les artisans de la ville de Cavaillon, les bouchers, les confiseurs, les pâtissiers. J'ai été voir la chambre des métiers à Avignon, la chambre de commerce, la mairie, l'office du tourisme de Cavaillon. Et j'ai dit, voilà, je voudrais créer un concours de cuisine autour du melon. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai dit, je vais me recevoir des claques. Et non, le contraire. C'était merveilleux. Oh, alors là, j'ai été bluffé. Tout le monde m'a dit, on attendait un gars comme toi, un peu fou, pour nous proposer ce genre de choses. Et j'ai commencé mon premier concours de cuisine autour du melon. Et ça a été extraordinaire. Et je suis parti sur quelque chose de très positif. Et ça m'a encouragé de continuer. J'ai commencé à collectionner des objets autour du melon, de la littérature, des objets, des bouquins, des choses comme ça. Le melon a été mon fer de lance et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et chaque année, je crée quelque chose de nouveau. une nouvelle recette, un nouvel esprit. En fait, je me suis investi avec les produits de la région, les fruits et légumes, et ainsi de suite. Donc, j'ai pu, en même temps d'être Monsieur Melon, j'ai pu être aussi le cuisinier, qui avait d'autres facettes, d'autres, qui avait une ouverture d'esprit sur la cuisine. Même si je n'ai pas fait d'école hôtelière, je suis un autodidacte, et j'ai appris mon métier avec les autres, beaucoup avec les autres. Moi qui ai toujours peint avec des aquarelles, avec du végétal, avec de l'huile, je suis assez créatif, toutes les matières m'intéressent. Un jour, j'étais dans ma cuisine et j'étais en train de préparer des confitures de pastèques, de melons. Et ma fille, Sandra Rose, qui a 8 ans à l'époque, elle passe et elle me dit « Oh, c'est joli de ces couleurs, papa. Oh, ça sent bon, tu me fais goûter. » Alors je lui fais goûter avec des petites cuillères. Et elle me dit « Oh, on dirait de la peinture, tu pourrais peindre avec ça. » Et je lui dis, oui, je peux peindre, mais enfin, bon, ça colle, c'est comme du miel, c'est pas possible, on peut pas peindre avec ça. Ah bon? Ben non, chérie, c'est comme du miel. Ah ben c'est dommage. Et elle m'a mis le doigt sur quelque chose. Donc tout l'hiver est passé, et dans ma tête, dans une petite case là derrière le cerveau, je me suis dit, oui, je vais trouver une recette à base de melon pour la peinture. Et l'été d'après, l'été suivant, j'ai mis au point ma peinture au melon. Et c'est amusant parce que j'ai commencé à en peindre en Normandie. Je n'ai pas peint à Cavaillon. Et j'ai été inspiré par les peintres, les impressionnistes, fin 19e. L'endroit où je passe mes vacances, il y a une lumière exceptionnelle. Donc j'ai commencé à peindre à base de peinture, à base de melon. En sachant que la peinture au melon n'a qu'une couleur. C'est toujours une couleur de sépia, c'est une seule couleur. Et bon, ça varie en fonction des millésimes, parce que ma peinture a des millésimes. Et en fonction des cuissons, j'obtiens plusieurs couleurs. Mais ça arrive toujours dans les couleurs sépia. Ça va être des couleurs un peu plus claires, un peu café, sorte de couleur de café clair, foncé, un peu de vert, parce que je peins également l'écorce de melon. Donc j'ai commencé à peindre à base de jus de pépins de melon. J'ai continué à peindre avec l'esprit du melon. Et j'ai commencé à créer le melonisme. C'est une inspiration autour de l'art du melon. C'est-à-dire qu'en fait, on va trouver de l'inspiration à travers la forme d'un melon, les graines de melon, le pécou, les odeurs, les couleurs. Et en fait, tout ça, ça va vers l'imagination. Le problème du sirop de pépins de melon, c'est qu'il faut 3 ans à 4 ans pour faire sécher la toile. Et donc, pour passer à la deuxième couche, il faut attendre un an. Alors c'est très long, c'est très intéressant. Bon, quand j'ai commencé à peindre, j'ai gardé 4-5 ans mes toiles et je les ai finies au bout de 5-6 ans. C'est quelque chose d'unique au monde. Cette collection de peintures au melon, c'est unique. Et donc, je me suis lancé dans le melonisme. Alors là, je travaille l'esprit du melon. Je vais travailler l'esprit de la tranche, de la graine, de la fibre, de la nervure du melon, du pécou, de la fleur du melon. Je vais chercher de l'inspiration à travers le melon, tout simplement. Et quand on voit le tableau, on dit « il n'y a pas de melon dans le tableau ». Eh bien, si, il y a du melon. Il faut chercher le melon. Il faut chercher où il est le melon. Ce n'est pas forcément du figuratif, non. Il y a beaucoup d'abstrait aussi dans la peinture du melonisme. Et c'est là tout l'art du melon. Et j'ai un plaisir immense chaque année de mettre au point quelque chose de nouveau, comme dans ma cuisine. Pareil, parce qu'en parallèle, je continue avec ma cuisine. Parce qu'évidemment, je suis chef de cuisine. Et il faut que je crée chaque année un événement culinaire. Si je le crée autour de la peinture, je le crée aussi autour de la cuisine. Et c'est en parallèle et c'est lié, l'un va avec l'autre. Pourquoi je voulais être peintre? En fait, je voulais être dessinateur publicitaire. Et à l'époque, il fallait faire une école, une grande école, il fallait faire presque une école d'ingénieur. Mais moi, je n'étais pas très très bon à l'école, j'étais dernier de la classe quand même, il faut le savoir. Pas dernier dans tout, mais au moins dans les maths. Et dans le français. En fait, je suis dyslexique. Oh, j'ai du mal à le dire encore. J'écris à l'envers, je fais tout à l'envers. Je fais tout à l'envers. Et c'est très difficile pour moi parce que je suis obligé de tout reprendre. Et c'est pour ça que c'est une force chez moi, parce que comme je reprends tout, je suis obligé de réfléchir beaucoup plus. Et d'aller à l'essentiel après. je suis auteur, je suis littéraire, avec une difficulté. Mais en réalité, je travaille aussi bien que les autres. J'étais dernier à l'école, dernier en maths, mon frère était premier en tout, et moi j'étais le dernier. Et en finalité, je m'en sors tout à fait bien, parce que j'ai appris à connaître l'handicap. Et quand on a un handicap aussi important, et qu'à l'époque on ne soignait pas, j'avais pas que cet handicap-là, j'en avais d'autres. Je bégayais, je zozotais, j'avais... Et en fait, avec le temps, j'ai appris à me connaître. J'ai appris surtout à transformer mon handicap en quelque chose de positif. Et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, qu'aux États-Unis, dans certains États, ils vont chercher des gens comme nous, des gens qui ont des difficultés, parce qu'en fait, ces difficultés se transforment en positivité, en quelque chose de, entre guillemets, doué. On va chercher des gens doués. Et c'est vrai qu'en fait, on dégage, je vois autour de moi, les gens qui ont le même problème que le mien, dégagent énormément de choses. Par contre, ça peut être aussi un handicap à vie et négatif. Et mon frère me disait souvent, c'est la passion qui t'a développé des facultés auxquelles tu as cru et tu es passé outre tout ça. Grâce à cet handicap, je me suis exprimé dans l'art complètement, dans la cuisine, dans la peinture, dans l'écriture, dans la sculpture aussi. Mais j'aurais aimé quand même, j'ai un souhait, j'aurais aimé, mais jamais trop tard, que quelqu'un s'occupe de m'accompagner là-dedans. Parce qu'on est bon que si on est accompagné, pour développer un peu mieux. Avoir un coach, voilà. Quelqu'un qui a envie de s'occuper de mon travail, qui le développe avec moi et qui le... Voilà. Parce que peut-être je vais passer à côté des choses intéressantes et il faut être aidé. Je suis complètement dans une phase de transmission et j'ai envie de justement de partager. Et ça, c'est dû une fois à mon voisin qui était un artisan, un ébéniste extraordinaire, que j'adorais son travail. Il travaillait tout seul. Il avait déjà 60, 65 ans, il allait partir à la retraite. Et avant de partir, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne déléguez pas? Pourquoi vous ne prenez pas un apprenti avec vous? Vous avez plein de secrets, des ministeries, d'essence, de vernis, plein de choses. Vous ne montrez rien à personne. Il me dit, oh non, mes secrets sont à moi, je ne les partage pas. Et ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, demain, je traverse la route, je me fais écraser, plus personne n'a mes recettes. Mais quel dommage! Mais quel dommage! Donc, à partir de là, j'ai commencé à donner toutes mes recettes dans les radios, dans les magazines. Des centaines de magazines j'ai eu. J'ai toujours donné mes recettes. Tout ce que j'ai créé, je l'ai donné. Tout le temps, toute ma vie. Et j'ai eu raison. Parce que ça fait avancer. Et puis, quelque part, je ne perds rien. J'ai donné. On ne perd rien quand on donne. Il faut transmettre. Transmission, c'est très important. Le métier de restaurateur, c'est qu'on travaille les cinq sens. Les cinq sens, tout est dit. C'est le seul métier où il y a les cinq sens. Aucun autre. Et on a le goût en plus. On ne va pas manger la peinture. Mieux qu'elle a bien, on la mange. On mange la peinture au melon. Tu peux couper le tableau et manger le tableau. Et ça, c'est extraordinaire. Mais je me rends compte que le peu de choses que j'ai fait en bien, ça me revient tout le temps. Le peu de choses que j'ai fait. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait plus? Et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait plus? Et retrouver les gens, leur sourire, les embrasser, comme si c'était la veille, sans penser à quoi que ce soit, comme intérêt, ça c'est un partage. Et ça, j'aime ça. Et ça, je me dis souvent, les gens qui arrivent ici, que je n'ai pas vu depuis 30 ans, que je reconnais les gens, comme si c'était la veille, et ça, j'ai toujours le plaisir de le faire. Et en fait, je ne vois pas passer les années. Je ne vois pas passer les années. J'ai l'impression que c'était encore hier. Quand on a vécu plein de belles choses, qu'on ne le voit plus, parce qu'elles ont disparu, on peut être un peu nostalgique et se dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, c'est la même chose que dans 20 ans, je pensais à la même chose. Ça, c'est intéressant. De penser de ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce que c'est aussi bien que ce qu'on a fait avant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça peut être mieux? Et ça, c'est intéressant, parce que j'espère que dans 20 ans, si je suis encore en vie, de pouvoir dire la même chose aujourd'hui, de ce que je vis, de ma pensée d'hier. Et j'ai beaucoup de nostalgie à ce niveau-là, parce que j'aime cette ville, en fait. J'aime beaucoup le Cavaillon. C'est une ville que j'aime beaucoup, qui a beaucoup changé, effectivement. Qui a beaucoup changé, mais qu'importe. Tout le but, c'est ça, en fait, c'est d'avancer. On a acquis, oui, on a acquis quelque chose, effectivement, on a acquis quelque chose. Mais le but, c'est d'apprendre encore, et d'apprendre pour soi-même, donner aux autres un apprentissage, aussi, et puis se dire que ben, la vie est intéressante. La vie est intéressante. J'aime les gens, j'aime ma fille, j'aime ma femme, mais j'aime une autre personne, aussi une âme sœur. Et j'ai trouvé l'âme sœur, en fait. Et j'aimerais continuer à apprendre avec elle. C'est une amie. Elle est mariée, je suis marié. On est amis. Mais c'est l'âme sœur quand même. Et ça, c'est extraordinaire. D'avoir quelqu'un qu'on a connu, qu'on aime, évidemment, donc qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'il y a un respect. On se le doit. On se le protège. Et on continue à s'aimer. Et ça, c'est très fort. J'aurais jamais pensé un jour arriver à ça. Je ne fais qu'une chose, c'est que continuer à aimer cette personne et en continuant à aimer les autres, évidemment. Parce que le but, c'est continuer à aimer. Le fin fond, c'est d'aimer, de m'avancer. L'amour, c'est l'inspiration. Ça, c'est sûr. Je l'ai dit dans une émission de radio, on m'a posé la question. Quel est le lien entre la peinture et la cuisine? Et j'ai répondu l'amour. Tout est lié à l'amour. Si on est amoureux, on est amoureux de la vie, donc de tout ce qu'il y a, tout ce qui peut tourner autour. On n'est pas obligé de consommer. Aimer, ça ne veut pas dire consommer, mais on peut quand même consommer intellectuellement. On va chercher à apprendre. Voilà. C'est ça, l'amour, c'est important. L'amour, c'est le premier lien qu'on a. On l'a avec sa mère, avec le sein de sa mère, au départ. Et on continue avec la vie.
Merci Jean-Jacques d'avoir délecté nos oreilles, nos yeux, nos papilles. Le melon a toujours été mon fruit préféré. Pendant mon enfance, dans le Nord, ma grand-mère tous les étés me disait « Viens, on va acheter du melon de Cavaillon ». À l'époque, je ne savais pas où était Cavaillon. Je ne me doutais surtout pas que quelques années plus tard, j'allais habiter dans le Vaucluse, échanger avec Jean-Jacques Prévost, Monsieur Melon, le jour où il fêtait sa première étoile au Michelin, renouvelée encore cette année. La vie nous réserve plein de surprises, et de belles surprises. Et grâce à toi, Jean-Jacques, je peux dire maintenant à ma grand-mère, viens voir mémé, on va regarder des peintures au melon de Cavaillon. Merci Jean-Jacques pour ta générosité à chacune de nos rencontres. Les auditeurs d'Esperluette savent maintenant qu'il y a 1000 façons de déguster le melon. À une prochaine, je l'espère, Luette, évidemment. Esperluette.